Voilà, donc depuis la semaine passée, nous avons commencé l'enseignement intitulé le GPS de votre destinée. Un GPS, comme vous le savez, c'est un appareil qui vous permet de pouvoir aller dans une certaine direction lorsque vous ne savez pas où aller, lorsque vous ne connaissez pas le chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que avant que l'homme invente le GPS, Dieu dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. L'homme n'a fait que imiter ce que Dieu avait déjà établi depuis l'éternité. J'aimerais vous dire qu'il y a en vous un GPS de votre destinée. Il y a en vous un GPS, une direction pour votre destinée. Vous n'êtes pas laissé au hasard. Et ce soir, j'aimerais intituler le message de ce soir, le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée. Nous allons lire deux textes ce soir. Le premier texte sera dans Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 10. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 10, pour ceux qui prennent des notes. Le deuxième texte sera le psaume 87, le verset 1 au verset 6. Psaume 87, le verset 1 au verset 6. Dieu dit, je te conseillerai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que tu dois suivre pour avoir du succès. Quelqu'un dit amen. Il y a une voie. Et ce que j'aime de Dieu, Dieu veut qu'on ait du succès. Quelqu'un dit amen. Dieu veut qu'on ait du succès. Dieu veut que, même financièrement, que nous soyons dans l'abondance. C'est le plan de Dieu que nous soyons dans l'abondance. Amen. Il n'y a aucun verset biblique qui glorifie la pauvreté. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Ça, c'est une pensée catholique qu'on a essayé de transporter, mais quand Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin, il ne le met pas dans un désert, il le met dans un lieu d'abondance. Quelqu'un dit amen. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 10, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu a des idées de grandeur sur la vie d'Abraham. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Christ et héritiers des promesses d'Abraham. Dieu veut que tu sois grand. Quelqu'un dit amen. Amen. Dieu dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelqu'un dit amen. Amen. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, Je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient à Bethel, de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Psaume 87, le verset 1 au verset 6. J'aimerais bien que nous puissions le lire ensemble. La Bible dit ceci. Au chef des chantres sur la guilite. Des fils des Corées, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit vers les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment dans un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et il se présente devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à la parole du Seigneur ce soir? Alléluia. Heureux ceux qui se confient en Dieu. Ils trouvent dans leur cœur. Donc, les chemins qu'ils trouvent, ce ne sont pas des chemins qui n'étaient pas là. Ce sont des chemins qui étaient là, mais par la connexion avec Dieu, il y a un GPS qui s'allume. Il y a un chemin qui était... Je voudrais que tu dises à ton voisin, il y a un chemin en toi. Dis à ton voisin, il y a un chemin en toi. Il y a un chemin. Il dit que quand tu te confies en Dieu, tu trouves dans ton cœur un chemin tout tracé. Dieu a déjà placé un chemin qui est une solution au problème que tu vis. Tu as besoin de connecter avec Dieu. Amen. La semaine passée, on a commencé à explorer ce terme de la destinée. Nous avons enseigné sur, introduit sur le GPS de la destinée. Nous avons fait certaines affirmations dont je retiens principalement 8 ici que je veux pouvoir dire. Premièrement, nous avons défini la destinée comme étant une destination. La destinée vient du destiné, destination. Une destinée est une finalité que Dieu a préparée pour nous depuis l'éternité. Amen. Une destinée est une finalité que Dieu a préparée pour nous depuis l'éternité. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, dit que Dieu a préparé pour nous d'avance des œuvres pour que nous les pratiquions. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Alors, j'aimerais dire que dans chaque personne, il y a deux types de destinées. Il y a la destinée naturelle, qui est liée à votre talent, qui est liée au don que Dieu a mis en vous, à votre situation familiale. Exemple, la destinée naturelle de Jésus, c'était quoi? C'était charpentier. Sa destinée naturelle, c'est charpentier. Amen. Sa destinée, pourquoi? Son père était charpentier, il est devenu charpentier. La destinée naturelle de Moïse, c'était quoi? C'était un berger. Les circonstances de la vie ont imposé une finalité à sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Jérémie, sa destinée naturelle, c'était quoi? Sacrificateur. Ézéchiel, sa destinée naturelle, c'était quoi? Sacrificateur. David, quelle était sa destinée naturelle? Berger. Donc, la destinée naturelle peut être un métier que vous exercez parce que vous avez un don naturel pour ça. Peut être un talent que vous avez eu. Je vous donne un exemple. Exemple, on a qui ici, Piqué Souban qui joue bien au hockey ou bien Didier Drogba. Ça peut être sa destinée naturelle parce que c'est un talent que Dieu lui a donné et il a travaillé le talent et il est devenu bon et il est devenu millionnaire. Mais le deuxième type de destinée, et j'aimerais vraiment ce soir que tu puisses m'écouter parce que ça va beaucoup nous aider. Parce que beaucoup de gens s'arrêtent au niveau de la destinée naturelle, s'arrêtent au niveau du don, du talent naturel qu'ils ont. Au-delà de la destinée naturelle, il y a la destinée divine. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que Dieu a préparé pour nous des œuvres d'avance. J'ai l'habitude de dire aux gens, je ne m'inquiète pas vraiment quand je dois prêcher, parce que je crois que tout ce que je dois prêcher a déjà été préparé d'avance. Tout ce que je fais, c'est répéter exactement ce que Dieu a préparé pour moi d'avance. Quelqu'un dit amen. Il y a, au-delà de la destinée naturelle, il y a la destinée divine. Donc, il y a l'idéal de vos circonstances, mais il y a la finalité que Dieu a préparée pour nous. Amen. Quelqu'un dit amen. La destinée divine, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés pour être sur cette terre. Frère, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas créé simplement pour travailler dans une manufacture. Dieu a mieux pour toi. Dieu ne t'a pas créé simplement pour que tu dépendes d'un subside, comment on dit ça, du bien-être social, de l'argent que le gouvernement va te donner. Dieu a mieux pour toi. Et ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que l'exemple même que Dieu prend, quand Dieu commence à préparer quelqu'un pour sa destinée, il ne prend pas un jeune, il prend un homme de 75 ans. Y a-t-il quelqu'un qui a 75 ans ici? Personne.
Ça veut dire que vous qualifiez tous. S'il y avait de l'espoir pour Abraham à 75 ans pour que Dieu lui donne un nouveau départ, Dieu, à l'âge où tu es, peut te donner un nouveau départ. Peux-tu te tourner vers ton voisin, dis-lui, je ne suis pas encore fini. Dis à ton voisin, je ne suis pas encore fini. Dieu a encore des plans pour moi. Alors, dans la destinée divine, c'est la raison principale pour laquelle Dieu vous a créé. Toi, ma sœur, tu te regardes comme étant infirmière, mais Dieu a mieux que infirmière pour toi. Toi, tu te regardes comme étant simplement, je suis simplement un préposé aux bénéficiaires, mais Dieu a mieux pour toi. Voilà pourquoi, quand Dieu va croiser Jérémie, Jérémie dit, non, moi je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, ne dis pas que je suis un enfant, parce que quand je t'avais préparé, j'avais mis ta destinée en toi. Ta destinée est en toi. Ta destinée n'attend que la révélation. Frère, le monde soupire après le talent et le potentiel que Dieu a mis en toi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc la destinée divine, c'est la raison de notre existence. J'aimerais le dire autrement, dans un terme un peu économique, un terme que j'ai appris à l'université. La destinée divine, c'est notre facteur d'utilité. Quand quelqu'un découvre sa destinée divine, il ne court plus après l'argent, mais l'argent court après lui. Quand tu découvres en tant que serviteur de Dieu ta destinée divine, la croissance de ton église est automatique. Quand tu découvres ta destinée divine, frères et sœurs, les miracles deviennent automatiques parce que à la destinée, la provision est attachée. La raison pour laquelle tu ne vois pas encore la provision, c'est que tu n'es pas encore dans la destinée. Quelqu'un dit amen. Dis à quelqu'un, c'est VIP. Alors, j'aimerais faire cette affirmation. Enfoui en chacun d'entre nous, endormi en chacun d'entre nous, sous les décombres des insultes que nous avons ramassées tout le long de notre parcours de la vie, enfoui en chacun d'entre nous, sous les injustices de la vie, sous la couleur de peau que tu as, sous le racisme peut-être que tu as subi, enfoui en chacun d'entre nous, il y a une destinée divine. Il y a quelque chose de grand que Dieu a préparé depuis l'éternité qui sommeille en toi. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, le but de notre vie consiste principalement à découvrir notre destinée divine et à nous y engager. La raison pour laquelle tu luttes beaucoup là, c'est parce que tu n'es pas encore dedans. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. La destinée divine. Alors, quelqu'un, lorsqu'on parle de la destinée divine, pense que pour entrer dans ma destinée divine, il faut que je devienne un pasteur. Pour entrer dans ma destinée divine, il faut que je devienne un serviteur de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Quelqu'un dit amen. Mais la destinée divine vous permet de découvrir le domaine d'influence dans lequel Dieu vous a appelé à exceller. Quelqu'un dit amen. La destinée divine vous permet de découvrir le domaine dans lequel Dieu vous a appelé pour exceller. Avez-vous déjà vu une publicité de la lutte pour les Africains, là, du catch? Ou bien certaines publicités qu'ils font comme à la télévision, ils disent, à ne pas essayer à la maison, c'est pour les professionnels seulement, n'est-ce pas? Il y a des choses que parfois tu vas regarder quelqu'un faire, ça a l'air facile de loin, parce qu'il est dans sa destinée divine. Toi, tu viens essayer, comme le fils de Séva, tu viens essayer de chasser les démons, ce n'est pas pour toi et tu te retrouves dans les difficultés. Enfoui en chacun d'entre nous. Alors, la destinée divine n'est pas un appel au ministère à temps plein, mais c'est un domaine dans la vie à partir de laquelle Dieu nous appelle à exercer une influence stratégique pour l'avancement du royaume de Dieu. Tout ce que Dieu a mis en vous, Dieu l'a déposé pour l'avancement de son royaume. Quelqu'un dit amen. Cinquièmement, il est possible de passer toute une vie sur la terre et de passer à côté de sa destinée divine pour plusieurs raisons. Plusieurs personnes iront dans la tombe ayant seulement vécu dans leur destinée naturelle. Ça veut dire que quelqu'un peut fermer la porte. Ça veut dire que toute leur vie, tout ce qu'ils ont fait, c'est travailler, payer des factures 9 à 5, sans jamais se dire que Dieu a plus pour moi. Si Moïse n'avait pas fait attention, il serait passé à côté de sa destinée divine. Moïse serait mort comme un simple berger et personne ne l'aurait connu. Mais Dieu, même à l'âge où tu es, tu n'es pas encore fini, tu peux entrer dans ta destinée divine. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alors, sixièmement, les plus grandes bénédictions se trouvent dans la découverte et dans l'engagement à marcher dans notre destinée divine. Quelqu'un dit amen. Quand Jésus est entré dans sa destinée divine, la Bible dit que des femmes d'hommes riches l'accompagnaient et le servaient avec leurs biens. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que les femmes des hommes riches l'accompagnaient. Quand il était charpentier, c'est lui qui courait après les clients. Tu ne m'as pas encore payé, tu as dit que tu allais me payer. Mais quand il est entré dans sa destinée divine, ce n'est plus lui qui court après les biens, mais c'est les biens qui courent après lui. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Quand tu rentres dans ta destinée divine, il y a des connexions surnaturelles qui commencent à se faire. Il y a des gens que peut-être que dans ta destinée naturelle, tu n'aurais pas connu, mais à cause de la connexion à la destinée divine, il y a des gens maintenant que Dieu met sur ton chemin. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi j'ai dit les plus grandes bénédictions. Il y a des sommes d'argent qui doivent être dans tes mains, mais ils ne seront jamais dans tes mains tant que tu ne rentres pas dans le chemin que Dieu a préparé pour toi depuis l'éternité. Septièmement, est-ce que vous êtes avec moi? Septièmement, votre destinée divine existait avant votre naissance. Maintenant, je vais vous expliquer. Avant que Dieu ne te crée, Dieu a créé d'abord ta destinée, ensuite il t'a créé. Je vais le répéter. Avant que Dieu ne te crée, Dieu crée d'abord ta destinée. Je vais vous expliquer. L'homme qui crée ce micro, qu'est-ce qui est le plus important? Créer le micro ou savoir à quoi il va servir? Je vais vous entendre. Savoir à quoi la chose va servir avant de la créer. Donc Dieu, avant de te créer, il détermine d'abord à quoi tu vas servir. Ensuite de cela, il te crée. Donc ta destinée existe avant. Maintenant, j'ai ce micro en main, n'est-ce pas? Je peux prendre le micro que Dieu a prédestiné à porter ma voix et je m'en sers comme marteau. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais à cause des circonstances de la vie, il est dans sa destinée naturelle, marteau. Et beaucoup de gens sont comme ça. À cause des circonstances, il devient marteau. Mais l'homme qui a créé le micro a prédestiné le micro à quoi? À porter la voix. Et plusieurs personnes ce soir, plusieurs personnes assises, sont assises et fonctionnent comme un micro qui sert de marteau. Bien sûr, tu gagnes ton salaire, mais Dieu dit, je t'ai créé et je t'ai préparé pour mieux que ça. Je t'ai préparé pour mieux que ça. Abraham vivait et se disait que je suis un marchand. Dieu dit, tu n'es pas un marchand, tu es le père d'une multitude de nations. Jésus était charpentier, mais en lui sommeillait le Messie du monde. En toi sommeille beaucoup plus que le monde a découvert. En toi sommeille beaucoup plus que ton voisin a découvert. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je suis très important. Dis à ton voisin, je suis très important. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Beaucoup de personnes fonctionnent comme le micro. Le micro est destiné à porter la voix. Mais non, toi, par ignorance de toi-même, tu te sers de toi comme un marteau. Je suis juste une infirmière. Qui t'a dit que tu es une infirmière? Infirmière n'est qu'un début pour t'emmener dans ce que Dieu avait pour toi. Quelqu'un dit amen. Joseph arrive chez Potiphar. Il pense qu'il est simplement un administrateur de biens de Potiphar. Alors, il peut s'arrêter là. Mais Dieu dit, non, je ne t'ai pas appelé simplement à administrer le bien de Potiphar. Je t'ai appelé à diriger une nation. Qui sait si, dans les sciences infirmières que tu fais, Dieu ne te prépare pas à créer un hôpital? Toi, tu te vois simplement comme une infirmière, mais en toi sommeille le cœur de quelqu'un qui est appelé à créer un hôpital. Quelqu'un dit amen. La destinée divine nous appelle à exercer une influence divine sur la terre afin que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu soient manifestées dans le siècle présent. Quelqu'un dit amen. J'ai besoin d'entendre quelqu'un dire amen ce soir. J'ai besoin d'entendre quelqu'un dire Amen ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la destinée divine, c'est la finalité pour laquelle Dieu nous a créés, Dieu nous a appelés à l'existence. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie, mais Dieu ne t'a pas créé inutilement. Tu n'es pas inutile. Tu es utile dans le plan de Dieu. Tu es utile dans le plan de Dieu. Peut-être que les hommes te regardent et disent, oh, tu sais quoi, cette personne-là ne vaut pas la peine qu'on lui fasse confiance. Mais si Dieu t'a permis à survivre au cancer, c'est que tu es utile. Si Dieu t'a permis à survivre à des maladies, alors que dans ton pays, il y avait des enfants qui mouraient, tout le monde est mort autour de toi sauf toi. Mais frère, tu es utile. Tu es utile. Et la destinée divine ne dépend pas de ce que tu as dans ton compte de banque. La destinée divine ne dépend pas de ce que tes parents ont fait, mais dépend de ce que Dieu a préparé pour toi depuis l'éternité. Et tu es encore utile pour le plan de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quand tu rentres dans ta destinée divine, frère, l'argent court après toi. Pour le moment, c'est toi qui cours après. Parce que tu développes une expertise dans un domaine particulier. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Jésus était charpentier, il courait après le client. Quand Jésus est devenu, il est passé dans sa destinée divine, la Bible dit les gens se jetaient sur lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Jérémie commence sa vie en se regardant simplement comme un enfant. Peut-être qu'il va, il dit, je vais devenir sacrificateur. Mais Dieu se révèle à Jérémie et Dieu lui montre sa destinée divine préparée depuis l'éternité. S'il y a une prière que tu dois faire, ne prie pas d'avoir de l'argent, prie pour découvrir la destinée. Amen. Quand tu fais cette prière-là, frère, l'argent court après toi, la santé court après toi, parce que quand tu as découvert ta destinée, Dieu est obligé de te garder en vie. Est-ce que tu me comprends? Dieu est obligé de te garder, Dieu est obligé de te protéger, parce que là maintenant tu fais les choses qui font l'intérêt de Dieu. Mais quand tu es dans ta destinée naturelle, il peut te reprendre tout le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Luc, chapitre 2, juste prenez-le en note. Chapitre 2, le verset 25 au verset 32. La Bible dit ceci. Il y avait un homme à Jérusalem nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Qu'est-ce qu'il avait entre les mains, Siméon? Non, il avait un enfant. Il avait Jésus, il avait un enfant comme tous les autres. Mais Siméon est capable de voir dans l'enfant la destinée divine. Ma prière, c'est qu'en tant que parents, nous puissions regarder un enfant et voir dans l'enfant la destinée divine. Alors que les parents de Jésus avaient besoin qu'on leur dise la destinée divine, Siméon pouvait regarder un enfant et voir la destinée divine. Amen. Et la Bible dit, verset 32, « Lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Quelqu'un dit Amen. Et Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné. » Cet enfant est cet enfant. Et pourtant, c'est l'enfant d'un charpentier. Frère, sœur, ta destinée divine ne dépend pas de la famille où tu as été tiré. Dieu dit de David, « J'étais tiré derrière les brebis et j'étais emmené devant. » Frère, Dieu peut te tirer de derrière. Tu es dans l'ombre, mais Dieu peut te tirer. Il dit, « Cet enfant, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël à devenir un signe qui provoquera la contradiction et toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai fait un long parcours pour donner à ceux qui n'étaient pas là ce que nous avons vu la semaine passée. Et pour vous montrer que il faut que tu te prennes avec plus de valeur. J'aimerais parler à nos sœurs. Ta destinée divine, ce n'est pas le mariage.
Je vais le répéter.
Ta destinée divine, ce n'est pas le mariage. Le mariage ne marque pas un terminus à ta vie, puis c'est fini. Non. Dieu a beaucoup plus que ça. Dieu ne t'a pas créé pour le mariage. Dieu veut que tu te maries. Mais au-delà du mariage, Dieu a des plans et Dieu a des projets pour toi. La destinée divine n'est pas seulement pour les hommes, mais c'est aussi pour les femmes. Amen. La Bible nous parle des femmes comme Marie, vue comme une jeune fille ordinaire, mais qui était prédestinée, préparée à être seule, qui va porter celui qui va être le Messie. Dieu a des plans pour vous. Amen. Maintenant, je retourne à l'illustration de la semaine passée. Est-ce que vous êtes avec moi? Je disais que le chemin de la destinée, c'est comme les gens qui embarquent, qui montent sur une autoroute. Et ces gens qui montent sur l'autoroute doivent aller sur un chemin. Certains vont sortir à 2 km, certains vont sortir à 300 km, certains vont sortir à 50 km. Et lorsque nous comprenons cela, nous commençons à comprendre que nous allons tous dans la même direction, mais nous n'avons pas tous la même destinée. Nous sommes tous assis dans cette salle, mais nous n'avons pas tous la même destinée. J'aimerais vraiment prendre le temps de vous parler ce soir pour vous encourager. La destinée divine, ce n'est pas votre couleur de peau. Quelqu'un qui rentre dans sa destinée divine, frères et sœurs, sa couleur de peau ne compte plus. Parce que tu excelles tellement. Tu sais, quand tu es excellent là, la couleur de peau ne compte plus. Quand tu excelles, on court après toi. Je vous donne un exemple. Je suis parti prêcher dans une région éloignée et un des seuls médecins de la région, c'est quelqu'un qui a la peau noire. Là, je lui demande, frère, j'étais curieux, quoi. Comment ça se passe? Il dit, mais ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Il dit, ils n'ont pas de choix. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je suis le seul qui est là. Quand tu rentres dans ta destinée divine, tu commences à exceller dans un domaine. Ta couleur de peau ne compte pas. Ça ne compte même plus si tu es un homme ou si tu es une femme. Notre problème, c'est que nous sommes dans notre destinée naturelle, alors nous luttons avec tout le monde. Mais rentre dans ce que Dieu a préparé pour toi depuis l'éternité. Le but de ta vie, c'est de découvrir cela. Quelqu'un dit amen. Le but de ta vie, c'est de découvrir cela. Quand j'ai découvert ma destinée divine, je ne me bats pas. L'enseignement que je vous donne, je l'ai reçu dans l'esprit. Ce matin, j'étais ici à 8 heures. J'avais des rendez-vous. J'y termine à midi, je vais chez moi. Je n'ai pas encore écrit l'enseignement. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans mon lit dormir. Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas besoin. Je vis une vie de prière, je n'ai pas pu dormir. 15 heures, je me réveille. Évidemment, je pose, ok, j'ai le message. Je m'assieds, je commence à l'écrire. 2 heures du temps, j'ai terminé. Ok, c'est bon, je suis prêt pour ce soir. Parce que je suis dans mon naturel, dans ma destinée divine. Quelqu'un dit amen. Alors, pour entrer dans le chemin de sa destinée, il y a 3 choses qui vont se passer. Je vais être très, très illustratif ce soir afin de nous aider. Le but ici, ce n'est pas vous donner beaucoup d'informations. J'expliquais à un jeune homme que le royaume de Dieu ne se comprend pas intellectuellement. C'est une révélation que tu as. Je peux te l'expliquer, tu vas le comprendre en mots humains. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour le comprendre, c'est une révélation. Exemple, lorsque j'ai eu ce moment avec Dieu, il y a une chose que j'ai compris. Quelle langue parlait Jésus? Non, Jésus ne parlait pas araméen. On entendait araméen, il parlait royaume de Dieu. C'est ce que j'ai vu dans la révélation que Dieu m'a donnée. Et Dieu a commencé à m'expliquer. Il parlait, on entendait araméen, parce que, ok, vous me permettez de faire une parenthèse? Ok. Est-ce que vraiment tu viens à un Lazare dans un tombeau sort? Est-ce qu'un araméen peut sortir un Lazare du tombeau? Dites-moi, sérieusement. Est-ce qu'un araméen peut sortir un Lazare du tombeau? Non. Les gens entendaient araméen parce qu'il fallait un langage dans lequel ils pouvaient se faire comprendre. Mais il fallait le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait leur dire que les paroles que je vous ai dites sont,
sont esprit et vie. Donc quand je parle, tu entends français, mais ce qu'il y a derrière le français, c'est le royaume. Voilà pourquoi quand un policier t'arrête, il dit arrête-toi. Il a dit la même chose que ton voisin. Ton voisin te dit arrête-toi, toi tu continues. Mais comme lui, il parle au gouvernement, quand le policier te dit arrête-toi, tu n'as pas de choix. Tu as entendu les mêmes mots que quelqu'un d'autre, mais à cause de l'autorité qui l'accompagne, tu es obligé de t'arrêter. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi je dis parler royaume. Quand tu rentres dans la dimension du surnaturel, vous arrivez tous les deux devant la même situation. Toi qui es dans le surnaturel, tu dis les mêmes mots, mais tu parles royaume. Quand tu parles royaume, les morts entendent. Quand, voilà pourquoi il dit les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vie. Voilà pourquoi il peut parler et une femme stérile devient enceinte. Une femme qui est atteinte de la maladie, de la perte de sang peut le toucher sans qu'il ne parle. La femme est guérie. Pourquoi la femme est guérie? Parce qu'il parle royaume. Dans son silence, il y a quand même un parler. Les malades sont guéris à cause du langage du royaume. Et ça, tu ne peux le comprendre que quand le Saint-Esprit commence à te le montrer, commence à te montrer le langage du royaume de Dieu, tu commences à parler un langage de puissance, un langage qui crée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux continuer? Voilà pourquoi quand il parle à Lazare, dans le tombeau, l'araméen ne peut pas entrer. Mais dans le tombeau, la mort comprend la langue du royaume de Dieu. La mort obéit, pas à l'araméen, la mort obéit à langage du royaume de Dieu. Jésus parlait royaume. Amen. Voilà pourquoi quand il parlait, le gouvernement de Dieu est obligé de se mettre en action. Je ferme la parenthèse. Fais grâce à mes seigneurs. Alléluia. La première des choses lorsqu'on s'engage dans le chemin de la destinée, quelqu'un qui s'engage dans le chemin de sa destinée naturelle, surnaturelle, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte. Il faut savoir quitter. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Mes frères et sœurs, la marche vers sa destinée commence toujours par un seul mot, c'est le mot « quitter ». Il n'y a pas de possibilité pour nous d'avancer, sinon de quitter des endroits. Quand je parle de quitter, c'est quitter un endroit où tu as été attaché afin de pouvoir avancer. Amen. Et là où Dieu lutte avec nous souvent, c'est de quitter des endroits où on a été habitué, des endroits où nous sommes restés tellement longtemps. Tu as toutes tes connexions, tu as tes amis. Combien de gens, parfois, Dieu veut les bénir. Il dit, oh, moi, je ne peux pas, j'ai mes amis, on se connaît, on a été à l'école ensemble. Mais Dieu bénit les gens qui peuvent quitter. Il permet à un Pierre de vivre le surnaturel lorsque Pierre peut quitter la barque et aller vers lui. Il bénit Abraham parce que Abraham est capable de quitter son pays, quitter pour aller vers l'inconnu. Et beaucoup de gens ne rentrent pas dans la destinée divine. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas quitter? La raison pour laquelle ils ne peuvent pas quitter, c'est qu'ils veulent avoir toutes les assurances que tout ira bien. Avec Dieu, Dieu ne te donnera jamais toutes les assurances. Dieu te dit simplement, obéis-moi, suis-moi, fais le premier pas, ensuite fais-moi confiance. Amen. Amen. Et beaucoup de gens veulent des assurances. Ils veulent l'assurance que tout va marcher, que je n'aurai aucune difficulté, que je n'aurai aucune épreuve. Et à cause de ça, ils hésitent. Certaines personnes sont assises ici avec le ministère en eux. Mais pour avancer, ils veulent faire. J'ai mis 3 ans de salaire de côté. J'ai mis autant de côté. Parfois, Dieu dit, mets d'abord le premier pas dans l'eau. Fais-moi confiance que je suis capable de pourvoir à tes besoins. Amen. Amen. Et beaucoup de gens sommeillent avec des projets en eux, sommeillent avec des choses de Dieu en eux, simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à poser le premier pas de foi, qui est de quitter une zone de confort, quitter un endroit auquel ils sont habitués. Et Dieu est en train de pourrir avec tant de projets, tant de potentiel, tant de choses en toi. Et quand tu es assis là ce soir, au moment où je te parle, ton travail t'énerve.
Tu n'es plus capable de voir ton boss. Tu n'es plus. Tu sens que c'est trop petit pour toi. Mais bon, parce que tu es payé un salaire. Frère, si tu savais le salaire que tu ferais, si tu oserais faire confiance à Dieu,
tu quitterais ton emploi tout de suite.
Amen.
Tu quitterais ton emploi tout de suite. Tu vas peut-être vivre une zone où tu seras secoué. Mais il y a beaucoup mieux pour toi quand tu fais confiance à Dieu. Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, quitte. Et quand il dit à Abraham, quitte, Abraham s'en va en direction du désert. Combien de gens aujourd'hui veulent des assurances pour tout dans leur vie? Je veux m'assurer que je veux manger. Je veux m'assurer. Donc finalement, Dieu n'est plus souverain, c'est toi qui es souverain. C'est plus Dieu, c'est toi. Combien de gens veulent? Beaucoup ici auraient déjà acheté une maison, mais n'ont pas encore acheté. Pourquoi? Je veux une assurance que je pourrais payer. Frère, parfois il faut mettre le pied dans l'eau. Tu mets le pied d'abord. C'est quand tu mets le pied que la provision arrive. C'est quand tu oses. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Et quand tu es comme ça, c'est que tu vis une vie d'hésitation. Et quand tu vis une vie d'hésitation, tu n'as jamais la paix en toi. Tu vis dans le doute, tu vis dans l'hésitation. Mais Dieu croise Abraham, il doit quitter. Il doit faire confiance à ce Dieu qu'il a appelé, que le Dieu qu'il a appelé est capable de créer des circonstances. Frère, je vis par la foi du 1er au 30 que Dieu pourvoira à mes besoins. Quand j'arrive que mon compte en banque est vide, je le vois. Mais je sais une chose, je fais confiance que Dieu est capable. Je dis que Dieu va, il doit pouvoir, il doit honorer son nom. Et quand tu quittes comme ça, la première des choses qui va arriver, c'est que tu vas passer par un désert par lequel le diable va te dire, mais tu vois, tu es orgueilleuse. Le diable mettra quelqu'un qui est familier à toi, mais voilà, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Non, quand tu quittes, la secousse est temporaire, mais la bénédiction est permanente. Il n'y a pas un avion qui décolle du sol sans subir dans son décollage une secousse. Avez-vous déjà vu un avion qui décolle? L'avion décolle et tout à coup c'est tout, 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 tout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attachez vos ceintures. Est-ce que le pilote saute du cockpit parce que l'avion subit des secousses? Non! Quand le GPS de ta destinée s'enclenche, quand une voiture, dans ta voiture, tu mets ton GPS, la première des choses que la voiture va te dire, c'est qu'il faut quitter l'endroit où tu es pour aller là où tu dois. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être comme dans Star Trek, ils veulent te téléporter. Donc ils ne font rien, ils ne veulent pas quitter soudainement, hop, il apparaît dans sa destinée. Non, il faut quitter. Il faut quitter, il faut quitter là où tu es. Il faut quitter là où tu es. C'est en quittant que là tu vas arriver. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as été peut-être congédié au travail. Les hommes t'ont congédié, mais Dieu t'a donné une promotion. Quand on a chassé Joseph de chez Potiphar, Potiphar l'a chassé, c'est vrai, mais Dieu lui a donné une promotion. Les hommes peuvent te chasser, mais en même temps qu'ils te chassent, Dieu peut te donner une promotion. Les hommes peuvent t'écraser, mais en même temps qu'ils t'écrasent, Dieu peut te donner une élévation. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a pas d'âge pour quitter. Il n'y a pas d'âge pour commencer de nouveau avec Dieu. Il sommeille des trésors en toi. Frère, tu peux être médecin. Médecin n'est qu'un moyen que Dieu t'a permis jusque maintenant pour survivre. Mais Dieu peut te dire, je t'ai créé pour être médecin, mais en réalité, le plan que j'avais derrière. Médecin n'était qu'un moyen que Dieu permettait pour te révéler ta destinée. Quelqu'un dit amen. Il n'y a pas d'âge pour quitter. Abraham quitte, reçoit l'appel de Dieu, il avait 75 ans. Jacob quitte la maison de Laban après 20 ans. Israël quitte l'Égypte après 400 ans. Les disciples laissent tout pour suivre Jésus. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés. Avec Dieu, tout commence quand nous avons pris à quitter sous son impulsion divine. Amen. Amen.
quand nous avons pris à quitter sous son impulsion divine le connu quotidien pour entrer dans l'inconnu de Dieu. Nous aimons souvent écouter les témoignages des grands hommes de Dieu ou tel pasteur. Mais s'il te raconte comment il a dû quitter. Parfois quitter c'est une injustice. Parfois quitter c'est des gens qui te chassent. Parfois quitter c'est des gens contre toi. Mais tu sais quoi? Même si c'est ça, c'est le GPS de ta destinée qui s'est enclenché. Quelqu'un dit amen. Moi j'aime bien quand j'enclenche mon GPS, il fait 5, 4, 3, 2, 1 et puis il dit let's go. Quand il dit let's go, c'est parce qu'il faut aller. Et parfois dans ta vie, Dieu est en train de faire 5, 4, 3, 2, 1, tu ne veux pas partir. Dieu dit à ton patron, mettez-la dehors. Et toi tu es fâché, tu fais des jeûnes et prières. Dieu dit je t'emmène vers ta bénédiction, toi tu es fâché. Comme Joseph qu'on amène en Égypte, il est en train de pleurer. Mes frères sont injustes. Dieu dit, ils ne sont pas injustes. Ils sont en train de te bénir. Je voudrais te dire que même ceux qui s'opposent à toi sont en train de te bénir. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a créés, qu'il a appelés à dessein. En d'autres termes, de ceux que Dieu a appelés selon une certaine destinée, selon une certaine préscience. Toute chose concourt à ton bien. Voilà pourquoi la Bible dit que si ton ennemi te fait du mal, fais-lui du bien. Parce qu'il travaille pour toi. Dis à ton voisin, j'ai des employés. C'est mes ennemis. Alléluia. Nous avons le choix. Nous pouvons bien quitter ou mal quitter. Quitter, c'est quitter dans la joie. Dans la joie que Dieu tient ma destinée entre ses mains. Beaucoup de chrétiens ici ne croient pas que s'ils manquent d'emploi, Dieu peut les faire survivre. Beaucoup disent qu'ils ont la foi en Dieu. Mais en fait, vous avez la foi quand vous avez votre emploi. Vous avez la foi quand vous avez un toit. Mais aucun d'entre nous ne croit que même sans emploi, Dieu peut pourvoir à tous mes besoins. Tel que l'apôtre Paul dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse de sa grâce. Beaucoup disent qu'ils ont la foi tant que ton chèque rentre. Mais peux-tu croire en Dieu quand tu n'as pas la certitude que quelque chose va rentrer? Peux-tu croire en Dieu même quand tu te retrouves dans la rue, croire que Dieu est capable de faire un miracle pour toi? C'est là qu'on commence à toucher les vraies choses, le nerf de la guerre. Quitter, bien quitter, c'est quitter par la foi que Dieu tient ma destinée. Nous pouvons mal quitter. Nous pouvons quitter en murmurant. Amen. Je reçois quelqu'un. Aujourd'hui, la personne me dit, pasteur, moi là, à chaque fois que quelque chose de bon m'arrive, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver de mal? Mais je dis, mais c'est normal que le malheur t'arrive. Parce que toi-même, tu l'appelles à l'existence. Nous pouvons mal quitter. Nous pouvons mal quitter. Dieu, tu quittes un emploi, on t'a fait une injustice, on t'a mis dehors. D'accord, ça fait mal. Mais tu peux dire que mon Dieu pourvoira à mes besoins, que Dieu peut même tourner cette situation-là en ma faveur. Amen. Tu es dans un appartement, tu n'arrives pas à payer le loyer. Vraiment, tu es serré là. Hein? Mais tu es bien habillé, tu sors toute pimpante. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais te délivrer de l'appartement. Dieu s'arrange qu'il y a le feu. Il y a le feu, vraiment, ça brûle. Mais tes affaires ne brûlent pas, ça sent seulement la fumée. Toi, tu sors, tu dis vraiment, Dieu, vraiment, comment il me garde, comment il me protège. Mais Dieu t'a délivré d'un loyer que tu ne pouvais pas payer. Je vous parle d'un Dieu qui peut faire des affaires bizarres. Tu peux là, j'ai eu quelqu'un qui il veut sortir de son appartement, l'appartement, il ne peut pas. Dieu s'arrange à un refoulement d'égout. La régie dit, l'appartement est inhabitable, madame, sortez, monsieur, sortez. Dieu peut créer une situation. Nous pouvons quitter en regrettant. Nous, comme la femme, la femme de Lot, nous pouvons quitter dans le deuil. Combien de gens ont quitté leur pays? Ici, sont au Canada, ne veulent rien entreprendre au Canada à part gagner leur chèque de paye parce qu'ils sont en train de regretter. Oh, quand nous étions au Congo, j'avais des domestiques. Oh, quand nous étions, mais tu as oublié, c'était la dictature. Oh, quand nous étions, combien de gens sont en train de regretter? Alors que Dieu t'a fait quitter et que Jérémie dit que dans le pays où vous êtes allé, il dit achetez des maisons, multipliez-vous, bâtissez des maisons. Ma soeur, tu es ici pour être bénie.
Tu es infirmière, mais tu peux commencer une maison pour personnes âgées. Il y en a tellement. Amen. Mais toi, à chaque fois que tu appliques, tu vas l'appliquer pour quoi? Pour être un employé. Voilà pourquoi on ne te prend pas. Parce que eux, spirituellement, ils voient un patron. Toi, tu viens comme employé.
Amen.
Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Quand c'est l'heure de rentrer dans ta destinée, Dieu commencera à fermer toutes les portes. Parce que quand tu embarques dans ton GPS, tu vas remarquer qu'il ferme tous les chemins. Il y a un chemin seulement, c'est une ligne droite et elle est rouge. Et il te dit, suis la ligne. Quelqu'un est avec moi ce soir? Combien de gens ont quitté, mais ils ont quitté en murmurant, ils ont quitté en regrettant. Voilà pourquoi la bénédiction ne t'accompagne pas. Dieu ne peut, parce que tu es toujours tenté à faire comme les Israélites. Dès que ça va mal, retournons un peu en Égypte, retournons un peu au Cameroun, retournons un peu au Congo, retournons un peu en Côte d'Ivoire, retournons un peu au Rwanda. Donc, tu n'es pas vraiment ici, tu es dans ta destinée, mais tu es là seulement parce que tu n'as pas de choix. Mais si tu avais le choix, tu retournerais, alors que tu ne comprends pas que dans ce pays ici, tu peux prospérer. Je voulais te dire, tu peux devenir millionnaire dans ce pays.
Voyez,
là tu as passé ton compte de banque rapidement. Ah, moi, non, toi. Tu peux devenir multimillionnaire dans ce pays. Frère, si les musulmans deviennent millionnaires, par combien plus forte raison un enfant de Dieu? Tu peux toucher le million et tu ne changes pas d'église. Tu es à l'aise.
Amen.
Voyez, on est habitué à penser que c'est pour les autres. Et quand quelqu'un dit, oh, je peux devenir millionnaire, tu dis, frère, tu es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. J'ai eu mon information d'une source que tu ne connais pas, c'est Dieu. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Tu peux quitter dans le deuil, tu peux quitter en regrettant. Et tant que tu vas regretter là où tu as quitté, tu ne peux pas être béni là où tu es.
Est-ce qu'il faut que je le répète?
Tant que tu vas regretter là où tu as quitté, tu ne peux pas être béni là où tu es. J'aimerais que tu bénisses là où tu es maintenant. J'aimerais que tu bénisses ce pays dans lequel tu te trouves. Quand tu as fait l'application, vous étiez des milliers à appliquer, mais toi, on t'a pris. Quand on t'a pris, tu étais content. Tu es venu ici maintenant, tu regrettes. Oh, je regrette vraiment là où je suis. Mais j'aimerais te dire que Dieu a des plans et des projets pour toi. Amen. Deuxièmement, première étape, nous avons parlé que c'est quitter. Il faut quitter dans la foi, quitter dans la joie que Dieu pourvoira tes besoins. Vous devez comprendre dans le domaine de quitter qu'il n'y a, à moins que toi tu vas tricher avec ton GPS. Mais quand ton GPS là tu le mets, est-ce qu'il te montre tout le chemin? Non, il te montre le chemin étape par étape. Exemple, tu n'as jamais été à Chibougamau. Mais tu n'es pas énervé. Tu as confiance que le GPS me montrera le chemin. Et tu avances étape par étape. Mais Dieu aussi fait la même chose. Il va te révéler ta destinée étape par étape. Il ne va pas te montrer tout. La Bible dit que quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu ne leur a pas permis de passer par le chemin de la mer. Parce qu'ils allaient croiser des ennemis. Et Dieu a dit qu'ils verront peut-être la guerre et ils vont retourner. Parfois, tu dis que, oh Dieu, tu m'as fait passer par le chômage, mais tu ne sais pas de quoi Dieu t'a protégé. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Alors, j'aimerais vous dire que Dieu ne va jamais vous révéler tout. Il va vous montrer le point d'arrivée, mais entre les deux, c'est son affaire.
Amen.
C'est son affaire. Il sait comment créer. Est-ce que j'aimerais vous dire, comme un bon GPS, même si tu arrives en chemin que le diable a bloqué le chemin, Dieu peut trouver une voie alternative.
That's so cool. Avoir un amen, dit quand même amen.
Quand le diable a bloqué le chemin, tu peux arriver avec ton GPS, on a fermé la route. Mais quand le diable bloque le chemin, Dieu peut trouver un chemin alternatif pour te faire arriver à destination. Tu arriveras à destination. Dis à quelqu'un, tu arriveras à destination. Dis à quelqu'un, tu arriveras à destination. On peut fermer le chemin. Le diable peut fermer le chemin. Mais la Bible dit que Dieu trouvera un moyen de te sortir de l'épreuve.
Amen.
Quelqu'un dit amen.
Amen.
La deuxième chose que vous devez comprendre sur le chemin de votre destinée, est-ce que ça vous bénit ce soir?
Amen.
Vous devez comprendre l'importance des lieux de transition. Frère, je vous le donne comme Dieu me l'a donné. Clair. Les lieux de transition. Sur le chemin de la destinée, il y a plusieurs arrêts ou plusieurs déviations qu'on appelle des lieux de transition. Israël, dans la marche dans le désert, a connu plusieurs, dans sa marche vers le pays promis, a connu plusieurs lieux de transition. Un lieu, est-ce que je parle vite, hein? Vous êtes avec moi? Un lieu de transition est un chemin temporaire qu'on doit prendre pour atteindre notre destination finale. Exemple, quand je quitte chez moi, je démarre ma voiture, est-ce que j'arrive sur l'autoroute soudainement? Qu'est-ce qui va se passer si je démarre ma voiture, soudainement j'arrive sur l'autoroute? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire l'accident. Pourquoi? Parce que ma vitesse par rapport à ceux qui viennent est trop faible. Donc, pour m'amener sur un chemin où je suis à pleine vitesse, je vais prendre des petits chemins. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça s'appelle des chemins de transition pour m'amener sur le chemin principal. Là, vous commencez à comprendre. Ça veut dire que pour m'amener sur le chemin principal de ma destinée, Dieu prend des voies de transition. Notre problème, c'est que nous utilisons souvent des voies de transition comme des voies permanentes. Exemple, mon GPS m'amène sur des voies de transition pour aller sur l'autoroute. Supposons que je vais aller dans la ville de Québec, n'est-ce pas? Moi, je décide que j'aime beaucoup les chemins asphaltés là, du bord de l'autoroute. Ok, je vais arriver à Québec, n'est-ce pas? Mais j'ai pris des chemins de transition, j'en ai fait des chemins permanents. Donc, j'arriverai à Québec au lieu d'arriver en 2 heures. Combien de temps ça prend? 2 heures? 2h20, 2h30. Au lieu d'arriver en 2h30, je vais arriver en 6h. Je vais y arriver. Mais en chemin, j'aurais gaspillé du temps, j'aurais gaspillé de l'essence, j'aurais gaspillé de l'énergie, j'aurais gaspillé de l'argent et j'aurais roulé lentement pour arriver à un endroit où j'aurais pu arriver en 2 heures. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils aiment les chemins de transition. Vous êtes avec moi ce soir? Ok, je vous donne un exemple. Dieu amène Joseph dans la maison du Potiphar. Joseph rentre dans la maison du Potiphar et dans sa tête, il dit, ça y est, je suis arrivé. Dieu dit, non, c'est un chemin de transition. Tu regrettes l'emploi que tu as perdu. C'était un chemin de transition. C'était un chemin de transition. Dieu amène Joseph dans la prison royale. Joseph dit, oh, cette fois-ci, je vais un peu respirer. C'est la prison, au moins, je suis bien. Dieu dit, non, c'est un chemin de transition. Combien d'entre nous pleurons sur nos chemins de transition parce que Dieu t'a enlevé quelque chose que tu avais? Tu as quitté, mais tu dis la voie de transition, ça y est. Dieu amène David et on donne à David la ville de Tiglath. On dit, c'est ta ville à toi. Tout à coup, les Amalécites arrivent, on pille la ville, on prend les femmes et les enfants, on s'en va avec eux. Et David peut être en train de pleurer parce qu'il vient et dit, mais comment Dieu peut me bénir et je perds ma femme, je perds mes enfants? Dieu dit, non, c'est un chemin de transition. Parce que Tiglath, c'est la dernière ville de préparation à la royauté. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Frère, est-ce que vous me permettez de vous parler un moment? Peut-être que tu n'es pas marié, mais le dernier homme qui t'a quitté, c'est un chemin de transition.
Amen.
J'ai eu un seul amen de soeur. Bon, je vais dire tout au frère. Frère, peut-être que tu n'es pas marié, mais la dernière femme qui t'a quitté, c'est un chemin de transition. Il y avait encore des réglages que Dieu devait faire dans ton caractère. Parce que un chemin de transition est un chemin de préparation pour l'élévation. Une voiture qui démarre sur le bord de chez toi ne peut pas entrer à l'autoroute à 20 km/h. Tu vas te faire tuer. Donc même si tu as une Mercedes là, c'est une belle Mercedes, elle va se faire tuer par une petite voiture. Une voiture qu'on dit, soit que le pasteur a dit. Pardon? Une Fiat, voilà.
Parce que si je dis la voiture de quelqu'un, si vous allez me voir avec le pasteur, tu n'es pas. Voilà. Tu risques de te faire emboutir par une Fiat qui est peut-être finie, une Fiat peut-être 1986, qui n'a même pas d'intérêt d'être là. Mais parce que toi, tu n'avances pas à la même vitesse que tout le monde. Donc Dieu, pour t'emmener, t'emmène par des chemins de préparation de ta destinée. Tu es dedans, mais Dieu t'emmène par des chemins de préparation qu'on appelle des voies de transition dans lesquelles tu es préparé pour ton élévation. Et toi, tu veux faire de cet endroit des lieux permanents. Israël a transformé le désert qui était un chemin de transition en un chemin permanent. Et la Bible dit que les cadavres sont tombés dans le désert.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Les chemins de transition sont nécessaires car nous n'avons pas encore la vitesse requise. Vous savez, Dieu peut t'appeler à un grand ministère. Mais Dieu te met sous un ministère dans lequel tout ce que tu fais, c'est porter le sac du pasteur, arranger la salle et tout. Dieu sait que tu as l'onction, Dieu sait que tu as l'appel, mais tu n'as pas encore le caractère pour l'élévation et Dieu te conduit dans un chemin de transition. Toi, tu dis non, on me fait des injustices, on me bloque. On ne te bloque pas, c'est Dieu qui t'a mis là pour que tu as. Quand il va te relâcher, tu as la vitesse nécessaire pour agir. Quelqu'un dit Amen. Je vais rapidement pour terminer. Dans un chemin de transition, parce qu'on n'a pas encore la vitesse requise ou l'équipement nécessaire pour entrer sur le chemin principal. Deuxièmement, le chemin de transition est un lieu d'équipement et de préparation. C'est un lieu d'apprentissage. Et beaucoup de gens font beaucoup d'accidents sur leur chemin, le chemin de leur destinée, parce qu'ils veulent absolument directement commencer en haut. Frère, quand on bâtit une tour, on commence par le toit ou par la fondation? Accepter le chemin de transition. C'est un lieu d'ajustement. Dans un chemin de transition, on va apprendre souvent à travailler pour les autres, pour apprendre pour soi-même. Dans un chemin de transition, on va apprendre à maîtriser ce que Dieu a mis en nous. À maîtriser ce que Dieu a mis en nous. Dans un chemin de transition, on va passer par des écoles de trahison, écoles où on va être déçu par les hommes. Mais ça, c'est pour que quand on arrive sur la voie principale, qu'on ne puisse pas justement être mal pris. Savez-vous que la plupart des accidents qui se passent plus sur des chemins de transition que sur l'autoroute? Il y a moins d'accidents sur l'autoroute, il y a plus d'accidents sur des petites voies. Est-ce que je me trompe? La plupart des accidents se passent dans les petites routes qui t'amènent sur l'autoroute. La plupart des accidents se passent là. Voilà pourquoi Dieu veut souvent nous passer par les chemins de transition. Et je voudrais terminer ce soir. Lorsque on passe par un chemin de transition, il n'est pas bien de transformer ça en un chemin permanent, mais d'accepter que Dieu peut faire un travail. Dieu nous conduit là temporairement. Dans un chemin de transition, c'est là qu'on a beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, parce que Dieu nous prépare au meilleur. Quand Joseph a résisté dans le chemin de transition à la tentation de la femme de Potiphar, Dieu l'a élevé. Et je termine ce soir en disant, une fois qu'on a passé le chemin de transition, une fois qu'on a réussi ça, Dieu nous amène alors à ce qu'on appelle le lieu de permanence. Dans le lieu de permanence, Genèse chapitre 45, le verset 13, Jacob, Joseph pouvait dire, « Allez raconter à mon père ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, vous le ferez descendre en Égypte. » Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit de Jésus, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Je termine ce soir en disant que peut-être que tu passes par un chemin de transition et il te semble que Dieu est injuste. Peut-être que tu passes par un chemin de transition et il te semble que la vie est injuste. Mais je veux te dire, si tu prends courage sur le chemin de transition, tu vas arriver sur la voie principale où tu regarderas ton passé, tu dis, hey, je ne pensais pas que moi, ici au Canada, je pourrais avoir quelqu'un qui fait le ménage dans ma maison. Je ne pensais pas que moi, je pouvais rouler dans telle voiture. Je ne pensais pas que moi, je pouvais être dans telle condition. Quelqu'un qui sait accepter les chemins de transition, Dieu va le conduire sur la voie principale. Dieu peut t'emmener sur ta voie principale. Mais tu n'as pas encore le caractère qu'il faut. Tu n'as pas encore l'étoffe qu'il faut. Tu n'as pas encore ce qu'il faut. Tu n'as pas encore le maniement qu'il faut. Alors Dieu te conduit par des chemins de transition. Si tu regardes la vie de David, Dieu a conduit David par des chemins de transition. L'objectif était la royauté, mais le candidat n'était pas encore prêt. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce soir et acclamer le Seigneur?
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Juste un moment, dis au Seigneur, merci pour ce que tu as déposé en moi. Merci parce que tu as un plan pour moi.